milliers d'années de la Terre. Libération, révolution, révolte, restitution au peuple. Quelles que soient les rubriques utilisées ou les formules nouvelles introduites, le renversement est toujours un phénomène violent. Le renversement est très simplement le remplacement d'une espèce d'homme par une autre espèce d'homme. Sans transition, il y a substitution totale, complète, absolue. Certes, on pourrait également montrer le surgissement d'une nouvelle nation, l'installation d'un État nouveau, ses relations diplomatiques, son orientation politique et économique. Mais nous avons précisément choisi de parler de cette sorte de table rase qui définit au départ tout renversement. Le renversement qui se propose de changer l'ordre du monde est, on le voit, un programme de désordre absolu. Mais il ne peut être le résultat d'une opération magique, d'une secousse naturelle ou d'une entente à l'amiable. Le renversement, on le sait, est un processus historique. Le renversement est la rencontre de deux forces congénitalement antagonistes que secrètent et qu'alimentent la situation politique. Leur première confrontation s'est déroulée sous le signe de la violence. Et leur cohabitation, plus précisément l'exploitation du pauvre par le riche, s'est poursuivie à grand renfort de baïonnettes et de canons. Le patron et l'exploité sont de vieilles connaissances. Et de fait, le patron a raison quand il dit « les connaître ». C'est le patron qui a fait et qui continue à faire l'exploité. Le riche tire sa vérité, c'est-à-dire ses biens, du système vertical. Le renversement ne passe jamais inaperçu, car il porte sur l'être. Il modifie fondamentalement l'être. Il transforme des spectateurs écrasés d'inessentialité en acteurs privilégiés, saisis de façon quasi grandiose par le faisceau de l'histoire. Elle introduit dans l'être un rythme propre, apporté par des nouveaux hommes, un nouveau langage, une nouvelle humanité. Le renversement est véritablement création d'hommes nouveaux, mais cette création ne reçoit sa légitimité d'aucune puissance surnaturelle. La chose opprimée devient homme dans le processus même par lequel elle se libère. Dans renversement, il y a donc exigence d'une remise en question intégrale de la situation sociale. Présenté dans sa nudité, le renversement laisse deviner à travers tous ses pores des boulets rouges et des couteaux sanglants. On ne désorganise pas une société aussi primitive soit-elle avec un tel programme si l'on n'est pas décidé dès le début, c'est-à-dire dès la formulation même de ce programme, à briser tous les obstacles qu'on rencontrera sur sa route. Le pauvre révolté qui décide de réaliser ce programme, de s'en faire le moteur, est préparé de tout temps à la violence. Dès sa naissance, il est clair pour lui que ce monde rétréci, semé d'interdictions, ne peut être remis en question que par la violence absolue. Ce monde vertical est un monde compartimenté. Sans doute est-il superflu, sur le plan de la description, de rappeler l'existence de quartiers populaires et de quartiers riches, d'écoles pour pauvres et d'écoles pour riches. Le monde vertical du capital est un monde coupé en deux. La ligne de partage, la frontière, en est indiquée par les casernes et les postes de police. Dans les quartiers pauvres, l'interlocuteur valable et institutionnel du pauvre, le porte-parole du riche, et du régime d'oppression est le gendarme ou le flic. Dans nos sociétés verticales, l'enseignement religieux ou laïque, la formation de réflexes moraux transmissibles de père en fils, l'honnêteté exemplaire d'ouvriers décorés après 50 années de bons et loyaux services, l'amour encouragé de l'harmonie et de la sagesse, ces formes esthétiques du respect de l'ordre établi, créent autour de l'exploité une atmosphère de soumission et d'inhibition qui allège considérablement la tâche des forces de l'ordre. Dans les pays capitalistes, entre l'exploité et le pouvoir, s'interpose une multitude de professeurs de morale, de conseillers, de désorientateurs. Dans les quartiers récalcitrants ou défavorisés, par contre, le gendarme et le soldat, par leur présence immédiate, leur intervention directe et fréquente, maintiennent le contact avec le pauvre ou le jeune et lui conseille, à coups de crosse ou de gaz lacrymo, de ne pas bouger. On le voit, l'intermédiaire du pouvoir utilise un langage de pure violence. L'intermédiaire n'allège pas l'oppression, ne voile pas la domination. Il les expose, les manifeste, avec la bonne conscience des forces de l'ordre. L'intermédiaire porte la violence dans les maisons et dans les cerveaux des pauvres.
I know the end is near, and so I face the final curtain. I, my friend, I'll say it clear. I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway. And more, much more than this, I did it my way.
La zone habitée par les pauvres n'est pas complémentaire de la zone habitée par les riches. Ces deux zones s'opposent. Elles obéissent au principe d'exclusion réciproque. La ville du riche est une ville en dur, toute de pierre et de fer. C'est une ville illuminée, asphaltée, où les poubelles regorgent toujours de restes inconnus, jamais vus, même pas rêvés. Les rues de leur ville sont nettes, lisses, sans trous, sans cailloux. La ville du riche est une ville repue, paresseuse. Son ventre est plein de bonnes choses à l'état permanent. La ville du riche est une ville blanche. La ville du pauvre, ou du moins le ghetto, le bled, la médina, la réserve, est un lieu malfamé, peuplé d'hommes malfamés. On y naît n'importe où, n'importe comment. On y meurt n'importe où et de n'importe quoi. C'est un monde sans intervalle. Les hommes y sont les uns sur les autres, les cases les unes sur les autres. La ville du pauvre est une ville affamée, affamée de pain, de viande, de chaussures, de chaleur, de lumière. La ville du pauvre est une ville accroupie, une ville à genoux, une ville vautrée. C'est une ville de nègres, une ville de bicots et de rouquins. Le regard que le pauvre jette sur la ville du riche est un regard de luxure, un regard d'envie, rêve de possession, tous les modes de possession. S'asseoir à la table d'un riche, coucher dans le lit d'un riche. Le pauvre est un envieux, le riche ne l'ignore pas, qui, surprenant son regard à la dérive, constate amèrement mais toujours sur le qui-vive. Ils veulent prendre notre place. C'est vrai, il n'y a pas un pauvre qui ne rêve pas au moins une fois par jour de s'installer à la place du riche. La violence qui a présidé à l'arrangement du monde vertical, qui a rythmé inlassablement la destruction des formes sociales solidaires païennes, démolit sans restriction les systèmes de référence alimentaire, les modes d'apparence, d'habillement. Cette violence sera revendiquée et assumée par le pauvre au moment où, décidant d'être l'histoire en acte, la masse des exploités s'engouffrera dans les villes interdites. Faire sauter le monde vertical est désormais une image d'action très claire, très compréhensible et pouvant être reprise par chacun des individus constituant le peuple opprimé. Disloquer le monde bourgeois ne signifie pas qu'après l'abolition des frontières, on aménagera des voies de passage entre les deux zones. Détruire ce monde vertical du capital n'est ni plus ni moins abolir une zone, la détruire au plus profond. La remise en question du monde bourgeois par le prolétaire n'est pas une confrontation rationnelle des points de vue. Elle n'est pas un discours sur l'universel, mais l'affirmation échevelée d'une originalité posée comme absolue. Le monde vertical est un monde manichéiste. Il ne suffit pas aux riches de limiter physiquement, c'est-à-dire à l'aide de sa police et de sa gendarmerie, l'espace du pauvre. Mais comme pour illustrer le caractère totalitaire de l'exploitation, le riche fait du pauvre une sorte de quintessence du mal. La société des pauvres n'est pas seulement décrite comme une société sans valeurs. Il ne suffit pas aux riches seulement d'affirmer que les valeurs ont déserté, ou mieux, n'ont jamais habité le monde des pauvres. L'indigent est déclaré imperméable à l'éthique, absence de valeurs, mais aussi négation des valeurs. Il est, osons l'avouer, l'ennemi des valeurs. En ce sens, il est le mal absolu. Élément corrosif, détruisant tout ce qui l'approche, élément déformant, défigurant tout ce qui a trait à l'esthétique ou à la morale, dépositaire de forces maléfiques, instrument inconscient et irrécupérable de forces aveugles. Parfois, ce manichéisme va jusqu'au bout de sa logique et déshumanise l'exploité. À proprement parler, il l'animalise. Et de fait, le langage du pouvoir, quand il parle du pauvre, est un langage zoologique. On fait allusion au mouvement des cafards, des rats, aux hordes, à la puanteur, au pullulement, au grouillement, aux gesticulations. Le riche, quand il veut bien décrire et trouver le mot juste, se réfère constamment aux bestiaires. L'occidental bute rarement sur les termes imagés, mais le pauvre, qui saisit le projet du riche, le procès précis qu'on lui intente, sait immédiatement à quoi l'on pense. Cette démographie galopante, ces masses hystériques, ces visages d'où toute humanité a fui, ces corps obèses qui ne ressemblent plus à rien, cette cohorte sans tête ni queue, ces enfants qui ont l'air de n'appartenir à personne, cette paresse étalée sous le soleil, ce rythme végétal, tout cela fait partie du vocable bourgeois. Le pauvre sait tout cela et rit un bon coup chaque fois qu'il se découvre animal dans les paroles de l'autre, car il sait qu'il n'est pas un animal. Et précisément, dans le même temps qu'il découvre son humanité, il commence à fourbir ses armes pour la faire triompher. Dès que le pauvre commence à peser sur ses amarres, à inquiéter le riche, on lui délègue de bonnes âmes qui, dans des congrès de culture, lui exposent la spécificité et les richesses des valeurs bourgeoises. Dans les périodes de renversement, il est fait appel à la raison des pauvres. On leur propose des valeurs sûres, on leur explique abondamment que le renversement ne doit pas signifier régression, qu'il faut s'appuyer sur des valeurs expérimentées, solides, cotées. Pendant les périodes de contestation, certains intellectuels arrivistes établissent un dialogue avec la bourgeoisie. Pendant cette période, le peuple est perçu comme une masse indistincte. Les quelques individualités opportunistes que les bourgeois ont eu l'occasion de connaître ça et là ne pèsent pas suffisamment sur cette perception immédiate pour donner naissance à des nuances. Par contre, pendant la période de renversement, la bourgeoisie cherche avec fièvre des contacts avec les élites. C'est avec ces élites qu'est entrepris le fameux dialogue sur les valeurs. La bourgeoisie, quand elle enregistre l'impossibilité pour elle de maintenir sa domination, décide de mener un combat d'arrière-garde sur le terrain de la culture, des valeurs, des progrès, des techniques, etc. Or, ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que l'immense majorité des peuples est imperméable à ces problèmes. L'intellectuel qui, pour sa part, suivi le capitaliste sur le plan de l'universel abstrait, va se battre pour que riches et pauvres puissent vivre en paix dans un monde nouveau. Le pauvre doit découvrir que sa vie, sa respiration, les battements de son cœur sont les mêmes que ceux du riche. Alors il découvre qu'une peau de riche ne vaut pas plus qu'une peau de pauvre, même s'il y en a moins. c'est dire que cette découverte introduit une secousse essentielle dans le monde. Toute l'assurance nouvelle et révolutionnaire de l'opprimé en découle. Si, en effet, ma vie a le même poids que celle du riche, son regard ne me foudroie plus, ne m'immobilise plus, sa voix ne me pétrifie plus. Je ne me trouble plus en sa présence. Pratiquement, je l'emmerde. Non seulement sa présence ne me gêne plus, mais déjà je suis en train de lui préparer de telles embuscades qu'il aura bientôt d'autres issues que la fuite. L'intellectuel se comporte objectivement dans les périodes de renversement comme un vulgaire opportuniste. Ce que le peuple demande, c'est qu'on mette tout en commun. L'insertion de l'intellectuel révolutionnaire dans la marée populaire va se trouver différée par l'existence chez lui d'un curieux culte du détail. Ce n'est pas que le peuple soit rebelle à l'analyse. Il aime qu'on lui explique. Il aime comprendre les articulations d'un raisonnement. Il aime voir où il va. Mais l'intellectuel révolutionnaire, au début de sa cohabitation avec le peuple, privilégie le détail et en arrive à oublier la défaite du capitalisme, l'objet même de la lutte. Il introduit la notion de discipline, de spécialité, de domaine dans cette terrible machine à mélanger et à concasser qu'est une révolution populaire. Engagé sur des points précis du front, il lui arrive de perdre de vue l'unité du mouvement et en cas d'échec local, de se laisser aller au doute, voire au désespoir. Le peuple, par contre, adopte dès le départ des positions globales, la terre et le pain. Que faire pour avoir la terre et le pain ? Et cet aspect buté, apparemment limité, rétréci du peuple, est en définitive le modèle opératoire le plus enrichissant et le plus efficace. Dans son monologue narcissique, la bourgeoisie, par l'intermédiaire de ses universitaires, avait profondément ancré, en effet, dans l'esprit du pauvre, que les essences demeurent éternelles en dépit de toutes les erreurs imputables aux hommes. Les essences bourgeoises occidentales s'entend. L'intellectuel aliéné avait appris de ses maîtres que l'individu doit s'affirmer. La bourgeoisie capitaliste avait enfoncé à coups de pilon dans l'esprit de l'élève l'idée d'une société d'individus où chacun s'enferme dans sa subjectivité, où la richesse est celle de la pensée. Or, le révolté qui aura la chance de s'enfouir dans le peuple pendant un renversement va découvrir la fausseté de cette théorie. Les formes d'organisation de la lutte vont déjà lui proposer un vocabulaire inhabituel. Le frère, la sœur, le camarade sont des mots proscrits par la bourgeoisie. Parce que pour elle, mon frère c'est mon portefeuille, mon camarade c'est ma combine. L'intellectuel révolté assiste dans une sorte d'auto-da-fé à la destruction de toutes ses idoles. L'égoïsme, la récrimination orgueilleuse, l'imbécilité infantile de celui qui veut toujours avoir le dernier mot. Cet intellectuel, atomisé par la culture bourgeoise, découvrira également la consistance des assemblées libres, la densité des commissions collectives, l'extraordinaire fécondité des réunions de quartier et des cellules d'action. L'affaire de chacun ne cesse plus désormais d'être l'affaire de tous, parce que concrètement, on sera tous découverts par les militaires, donc massacrés, ou on sera tous sauvés. Le démerdage, cette forme athée du salut, est dans ce contexte prohibé. Compartimenté, manichéiste, immobile, monde de statues. La statue du général qui a fait la conquête, la statue de l'ingénieur qui a construit le pont. Monde sûr de lui, écrasant de ses pierres les échines écorchées par le fouet. Voilà le monde vertical. L'indigent est un être parqué. L'apartheid n'est qu'une modalité de la compartimentation du monde. La première chose que le pauvre apprend, c'est à rester à sa place. À ne pas dépasser les limites. C'est pourquoi les rêves des pauvres sont des rêves musculaires, des rêves d'action, des rêves agressifs. Je rêve que je saute, que je nage, que je cours, que je grimpe. Je rêve que j'éclate de rire, que je franchis le mur d'une enjambée, que je suis poursuivi par des meutes de voitures de police qui ne me rattrapent jamais. Cette agressivité sédimentée dans ses muscles, le pauvre va la manifester d'abord contre les siens. C'est la période où les gueux se bouffent entre eux et où les policiers et les juges d'instruction ne savent plus où donner de la tête devant l'étonnante criminalité du pauvre. Le pauvre est toujours sur le qui-vive, car déchiffrant difficilement les multiples signes du monde vertical, il ne sait jamais s'il a franchi ou non la limite. Face au monde arrangé par les bourgeois, le pauvre est toujours présumé coupable. La culpabilité du pauvre n'est pas une culpabilité assumée, c'est plutôt une sorte de malédiction, d'épée Damoclès. Or, au plus profond de lui-même, le pauvre ne reconnaît aucune instance. Il est dominé, mais non domestiqué. Il est infériorisé, mais non convaincu de son infériorité. Il attend patiemment que le riche relâche sa vigilance pour lui sauter dessus. Dans ses muscles, le pauvre est toujours en attente. On ne peut pas dire qu'il soit inquiet, qu'il soit terrorisé. En fait, il est toujours prêt à abandonner son rôle de gibier pour prendre celui de chasseur. Les rapports riche-pauvre sont des rapports de masse. Au nombre, le riche oppose sa force. Le riche est un exhibitionniste. Son souci de sécurité l'amène à rappeler à haute voix aux pauvres que le maître ici, c'est lui. Au niveau des individus, on assiste à une véritable négation du bon sens. Alors que le patron ou le policier peuvent à longueur de journée frapper le prolo, l'insulter, le faire mettre à genoux, on verra l'opprimé sortir son couteau au moindre regard hostile ou agressif d'un autre pauvre. Car la dernière ressource de l'exploité est de défendre sa personnalité face à son congénère. Les bastons entre bandes rivales ne font que perpétuer de vieilles rancunes enfoncées dans les mémoires. En se lançant à muscles perdus dans ses vengeances, le pauvre tente de se persuader que le capitalisme n'existe pas, que tout se passe comme avant, que l'histoire continue. Nous saisissons là, en pleine clarté, au niveau des collectivités, ces fameuses conduites d'évitement, comme si la plongée dans le sang fraternel permettait de ne pas voir l'obstacle, de renvoyer à plus tard l'option pourtant inévitable, celle qui débouche sur la lutte armée contre le capitalisme. Tous ces comportements sont des réflexes de mort en face du danger, des conduites suicides qui permettent aux riches, dont la vie est la domination, se trouvent consolidés d'autant de vérifier par la même occasion que ces hommes ne sont pas raisonnables. Le pauvre réussit également, par l'intermédiaire de la religion, à ne pas tenir compte du riche. Par le fatalisme, toute initiative est enlevée à l'oppresseur. La cause des maux, de la misère, du destin revenant à Dieu. L'individu accepte ainsi la dissolution décidée par Dieu, s'aplatit devant le riche et devant le sort, et par une sorte de rééquilibration intérieure, accède à une sérénité de pierre. Entre-temps, cependant, la vie continue, et c'est à travers les mythes terrifiants si prolifiques dans les sociétés obscures que le pauvre va puiser des inhibitions à son agressivité. Génies malfaisants qui interviennent chaque fois que l'on bouge de travers, ou deux géants qui disposent autour de l'opprimé un monde de prohibition, de barrage, d'inhibition beaucoup plus terrifiante que le monde capitaliste. Et le problème, dès lors, n'est plus de se mettre en règle avec le monde bardé de fer du capitalisme, mais de réfléchir à trois fois avant d'uriner, de cracher ou de sortir dans la nuit. Au niveau des individus, la violence désintoxique. Elle débarrasse le pauvre de son complexe d'infériorité, de ses attitudes contemplatives ou désespérées. Elle le rend intrépide, le réhabilite à ses propres yeux. Même si la lutte armée a été symbolique, le peuple a le temps de se convaincre que la libération a été l'affaire de tous et de chacun, que le leader n'a pas de mérite spécial. La violence hisse tout le monde à la hauteur du leader. Quand elles ont participé dans la violence à la libération, les pauvres ne permettent à personne de se présenter en libérateur. Elles se montrent jalouses du résultat de leur action et se gardent de remettre à un dieu vivant leur avenir, leur destin, leur sort. Totalement irresponsables hier, elles entendent aujourd'hui tout comprendre et décider de tout. Illuminées par la violence, la conscience du peuple se rebelle contre toute pacification. Les démagogues, les opportunités, les magiciens ont désormais la tâche difficile. La praxis qui les a jetés dans un corps à corps désespéré confère aux foules révoltées un goût vorace du concret. L'entreprise de mystification devient, à long terme, pratiquement impossible. Très bien. largement inspiré de Frantz Fanon.